vos tenés que entrar en humano, quiero igual que entrar en humano.
C'est pas du vent.
Catène.
Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, comment nourrir le monde ? Aujourd'hui, 80% de l'alimentation mondiale provient de l'agriculture familiale. Vous le savez, nous sommes de plus en plus nombreux et dans le contexte des changements climatiques et de la dégradation de la biodiversité, une question s'impose. Quel est le modèle agricole à développer largement ? Les enjeux financiers sont colossaux, mais les rapports se multiplient pour défendre une approche, l'agroécologie. Une méthode intensive en main-d'œuvre basée sur le fonctionnement des écosystèmes naturels. Bien loin de l'agrochimie et de l'agriculture industrielle, l'agroécologie a le potentiel pour augmenter les rendements, lutter contre la pauvreté rurale et combattre le changement climatique. Cette méthode prend de l'ampleur en Afrique, mais c'est encore trop timide. Alors comment la faire changer d'échelle ? Nous en parlons tout de suite avec nos invités réunis ici à Montpellier sur le campus du CIRAD, le Centre international de recherche agronomique pour le développement. L'agroécologie est l'un des sujets qui a été abordé à l'occasion des Montpellier Global Days Africa. 4 jours de débats autour du thème soigner, nourrir, protéger. Des débats qui ont eu lieu en amont du sommet Afrique-France qui se déroule aujourd'hui.
C'est pas du vent sur RFI.
Avec nous dans ce studio, 5 invités. Mariam So, bonjour.
Bonjour Cécile.
Vous êtes secrétaire exécutive de Enda Pronat, une association créée dès le début des années 80 pour sensibiliser aux dangers liés à l'utilisation des pesticides au Sénégal. Nadine Andrieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agronome, vous avez travaillé 5 ans au Burkina Faso et aujourd'hui vous animez au CIRAD avec 2 autres personnes les échanges entre les scientifiques sur la thématique des transitions agroécologiques. Pierre Blaisango, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche au Cameroun et vous présidez le réseau régional africain pour la formation agricole et rurale. Sandra Ruyère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable adjointe de la division agriculture, développement rural et biodiversité à l'Agence française de développement. Et avec nous aussi, Aimé Félix Zama, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes formé à l'agroécologie ici, à l'Institut agronome de Montpellier, et vous travaillez à son développement au Togo. Alors pour débuter cette émission, j'aimerais vous demander à chacun votre définition finalement de l'agroécologie et pourquoi c'est ce modèle agricole qu'il vous semble essentiel de développer. Mariam So.
Merci Cécile. La définition de l'agroécologie, j'avais partagé avec un agronome qui disait que il n'y a pas de définition, c'est un modèle de vie, c'est un projet sociétal. C'est le milieu aussi, surtout si on parle du monde rural, qui est en mesure de définir son agroécologie, c'est-à-dire c'est un certain nombre de conditions, de pratiques, de modèles de vie qui aident, en tout cas qui fait que l'homme est au devant, au centre de tout ça, pour arriver à remettre, à redonner vie aux êtres vivants, donc les humains et les animaux, qui redonnent vie à l'environnement. Donc, ça veut dire une vie aussi qui met en avant les générations futures, une vie qui se fonde sur le passé, le vécu présent, et se dessiner un avenir agréable dans le respect de l'homme, de l'environnement et de l'animal pour une vie durable.
Nadine Andrieux, ça c'est la définition justement sociétale, on va dire, de Mariam So, mais la définition de l'agronome.
Alors l'agroécologie, on définit à travers un certain nombre de principes, comme la mise en œuvre de pratiques pour maintenir la biodiversité, le recyclage des nutriments dans les différentes composantes des systèmes agricoles. Mais on définit aussi l'agroécologie par un certain nombre de principes qui rejoignent ceux décrits par Madame So, c'est-à-dire une gouvernance responsable, la co-création de connaissances, mais aussi des relations de confiance entre les producteurs et les consommateurs. Donc c'est un ensemble de principes biotechniques ou agronomiques, mais aussi des principes plus culturels et sociotechniques.
Et pourquoi c'est important de défendre l'agroécologie aujourd'hui ?
C'est important de défendre l'agroécologie parce que c'est une solution possible face aux enjeux des systèmes agricoles, c'est-à-dire les questions de changement climatique, de dégradation des agroécosystèmes, de besoin d'augmenter durablement la production agricole. Donc l'agroécologie est une des pistes possibles pour répondre à ces défis. Augmenter durablement la production et répondre aux besoins des populations.
Pierre Blaise-Angot, quelle est votre définition, vous, en tant que formateur, quand vous parlez aux jeunes, qu'est-ce que vous dites pour expliquer ce qu'est l'agroécologie et pourquoi est-ce que vous le défendez ?
Alors, je voudrais d'abord dire qu'en tant que formateur, j'entrerai plutôt sur les disciplines. Alors, je crois que l'agroécologie combine un ensemble de disciplines. L'agronomie, au départ, c'est un incontournable. L'environnement. Et les sciences sociales, comme l'a dit Madame So, l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ces disciplines doivent forcément co-construire des solutions ensemble. En fait, d'abord poser les problèmes ensemble et co-construire des solutions ensemble. Alors, donc pour moi, c'est ça la définition simple que je donne. Mais elle paraît simple, mais son domaine d'application complexifie parce qu'elle ça impose une pluridisciplinarité. Alors un formateur qui n'est plus à même de développer son cours isolé des autres, donc automatiquement on est en termes de formateur organisé en pluridisciplinarité selon les disciplines que j'ai évoquées.
Mais concrètement, ça se traduit comment ?
Ça se traduit que si je dois intervenir sur les sciences des sols, le sol c'est du vivant, je ne peux plus intervenir seul. Parce qu'il y a d'autres acteurs qui interfèrent avec le sol. C'est lui qui s'occupe, par exemple, de la gestion de l'eau. Je ne peux plus dire parler de sol sans m'occuper de celui qui s'occupe de la gestion de l'eau avec les problèmes d'infiltration, d'érosion. Ouais, c'est comme ça que ça se combine finalement. Ce n'est plus une histoire de je viens, je dépose un cours avec une introduction du chapitre 1, 2. Ce n'est plus possible. J'accompagne une réflexion pour construire une capacité et nous sommes ensemble pour construire la capacité recherchée. Donc, j'ai dit donc que ça devient complexe parce que facilement, on peut croire que c'est la superposition de ces disciplines, mais c'est plutôt leur logique systémique.
C'est comme l'écosystème dans la nature, en fait.
Ça devient exactement comme l'écosystème dans la nature. Et vous voyez aussi que le champ d'application de la parcelle à l'exploitation. Et Madame Soa parlait des animaux, parce que quand on sort de la parcelle, si elle est adossée à une culture, on atteint le niveau, c'est l'étable qui interfère. Et de là, on part au territoire, et des territoires aux politiques nationales. Vous voyez, finalement, c'est là que ça devient un peu complexe, parce qu'on part de l'individu à toute la nation. Et il faut que tout le monde soit ensemble pour pouvoir trouver des solutions durables.
Sandra Rullière, à l'AFD, c'est quoi la définition de l'agroécologie ?
Mais je pense que les précédents intervenants l'ont bien décrit. On est sur un modèle qui permet finalement de concilier l'homme et la nature au sein des territoires ruraux. Et c'est un modèle qui nécessite une haute technicité environnementale pour les producteurs, pour les productrices qui valorisent ces territoires, ces ressources naturelles au sein de ces territoires, puisque l'agroécologie vise à permettre de produire plus et produire mieux en mobilisant la biodiversité au service de cette production et en améliorant l'efficience de l'utilisation des ressources naturelles, c'est-à-dire de l'eau, du sol, du soleil.
Et pourquoi est-ce que c'est important de développer ce modèle aujourd'hui sur le continent africain ?
Alors aujourd'hui, c'est important de développer ce modèle puisque les territoires ruraux africains sont confrontés à des enjeux qui sont multiples. Des enjeux d'adaptation au changement climatique extrêmement importants, des enjeux de sécurité alimentaire avec des niveaux d'insécurité alimentaire qui aujourd'hui sont au plus haut et évidemment des enjeux de préservation de la biodiversité. On parle là d'enjeux environnementaux et d'enjeux liés aux hommes qui vivent sur ces territoires et bien évidemment il faut parler du revenu des producteurs qui est essentiel et l'agroécologie doit pouvoir contribuer aussi à améliorer le niveau de vie des personnes qui vivent sur ces territoires.
Aimé Félix Dzama, vous avez décidé de venir vous former ici à l'Institut agronome de Montpellier en agroécologie. Aujourd'hui, vous enseignez et vous lancez la dynamique de l'agroécologie au Togo. Donc, quelle est votre définition et pourquoi vous avez voulu vous lancer dans cette aventure ?
D'abord, je vais donner une définition un peu scolaire de l'agroécologie. Donc, selon Altieri, c'est une science, un ensemble de pratiques et un mouvement social. Et pour moi, ça se traduit au quotidien, comme vous l'avez précisé au Togo, par plutôt un ensemble de pratiques. Donc, dans le cadre d'un projet qu'on mène avec des femmes maraîchères sur une plaine, on mobilise ces processus, on fait de l'intensification finalement agroécologique en mobilisant des processus biologiques. Un exemple, c'est la mobilisation de biofertilisants qui sont issus de la dégradation de la matière organique, dans, on va dire, via un processus de méthanisation, donc des bactéries en condition anaérobique qui dégradent de la matière pour qu'on ait finalement un fertilisant riche en nitrates qui permet aux légumes-feuilles de croître rapidement. Donc la même chose, on peut la voir comme fertilisant via un processus de synthèse, donc l'urée par exemple, où on va mobiliser énormément d'énergie fossile pour capter, on va dire, l'azote atmosphérique afin de le rendre en granulé, le rendre disponible aux agriculteurs. Donc on va dire la mobilisation intensive des processus biologiques se fait par la méthanisation dans notre cas précis.
Voilà, et pour vous c'était important de défendre l'agroécologie aujourd'hui ?
Tout à fait. De par la formation, j'ai su que le modèle dans lequel on est actuellement, en tout cas, qui on est conscient aujourd'hui, arrive à sa fin, un modèle d'agriculture intensive, a montré ses limites. Donc, l'alternative qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est l'agroécologie. C'est une évidence pour moi.
Alors, le problème, c'est que ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Hein. L'agriculture industrielle et à grande échelle, évidemment, se défend. Donc, vous allez le comprendre dans un instant avec l'exemple de la Tanzanie. Et pour partir dans ce pays, nous commençons par un voyage musical avec Data's Mum Wamtu.
Nampenda kumuacha sitoweza japo maswali mengi najiuliza kichwa na mimi ninawaza napomuliza nazidi nishangaza yu tayari familia kutelekeza nilicho huwa data sikumueleza basi mpenzi mke umuheshimu.
Le groupe tanzanien Dataz dans C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes à Montpellier, dans le sud de la France, à l'occasion des Montpellier Global Days Africa. 4 jours de débats autour du thème soigner, nourrir, protéger. Des débats qui ont eu lieu en amont du sommet Afrique-France qui se déroule aujourd'hui. Et parmi les sujets mis en avant, comment faire changer d'échelle l'agroécologie sur le continent africain ? Car même si c'est une méthode, et vous l'avez compris dans la première partie de l'émission qui a fait ses preuves, les lobbies de l'agrochimie se battent pour ne pas céder leur part du gâteau du développement de l'agriculture sur le continent. Exemple en Tanzanie avec ce témoignage du docteur Veran Gowi. Elle est chercheuse spécialiste des pesticides au MUHAS, Muhimbili University of Health and Allied Sciences de Dar es Salaam.
Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo.
For Tanzania, we started studying the impact of pesticides on farmers in
1990. En Tanzanie, nous avons commencé à étudier les effets des pesticides sur la santé des agriculteurs à partir des années 90. Nous sommes allés dans les fermes pour regarder comment ils utilisaient les pesticides. On a prélevé du sang et de l'urine chez les agriculteurs pour faire des analyses et voir si on retrouvait des pesticides. Nous sommes allés voir des responsables politiques en charge de l'agriculture pour voir s'ils avaient des connaissances sur les dangers des pesticides et s'ils pouvaient sensibiliser les agriculteurs. Nous sommes aussi allés dans les centres de santé pour voir si les infirmiers pouvaient traiter les agriculteurs qui avaient été empoisonnés par les pesticides. Et ça a été un vrai choc pour nous parce que beaucoup d'agriculteurs étaient contaminés. Ils n'avaient aucune idée de la dangerosité des pesticides. Les responsables politiques au ministère de l'Agriculture ne connaissaient pas les effets des pesticides sur la santé. Ils ne faisaient aucune sensibilisation. La seule chose qu'ils faisaient, c'était promouvoir l'utilisation des pesticides chimiques. Et pire encore, dans les centres de santé, on s'est rendu compte que personne ne savait comment soigner un empoisonnement aux pesticides. Voilà la situation en Tanzanie à l'époque.
So I try to create awareness among doctors and environmental health officers.
Alors j'ai essayé de sensibiliser les médecins et les gens au ministère de l'Agriculture sur les impacts des pesticides sur la santé. Et il y a eu une certaine prise de conscience. Mais en 2014, quand on a refait des études, on s'est rendu compte que la situation n'avait pas changé.
Et comment vous expliquez justement ce manque d'information, ce manque de sensibilisation des agriculteurs ?
I can say that.
Ce qu'on peut dire, c'est que ce manque d'information des agriculteurs vient du fait que ceux qui sont censés les sensibiliser sont les mêmes que ceux qui souhaitent produire toujours davantage. Donc leur intérêt, c'est de promouvoir les pesticides. Le problème, c'est ceux qui sont censés éduquer les agriculteurs. Ils ne font pas leur travail parce qu'il y a conflit d'intérêts.
Donc aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle des pesticides et de leur nocivité en Tanzanie.
Oui, on peut dire qu'il n'y a aucun contrôle, parce que qui fait le contrôle ? C'est pour ça qu'il y a tant de maladies non transmissibles qui se développent. Et on nous interdit de faire des recherches pour comprendre l'impact des pesticides sur ces maladies non transmissibles. Des recherches ont été faites dans les pays développés sur les liens entre certaines maladies comme le diabète ou l'infertilité et l'utilisation des pesticides. Mais on ne se sert pas des études réalisées par les organisations internationales et on ne fait pas nos propres recherches. Donc les pesticides qui sont contrôlés ou interdits en Europe finissent en Tanzanie.
Mais c'est ce que je voulais vous dire. Il existe quand même des études qui ont été faites en Europe, aux États-Unis, et la Tanzanie ne s'en sert pas.
Quand un pesticide est interdit par une convention internationale, le gouvernement réagit, mais ses décisions sont très longues à mettre en œuvre. Par exemple, l'endosulfan, un puissant pesticide, a été interdit en Tanzanie également. Mais si vous allez sur les marchés, vous en trouverez dans les petites boutiques. On les interdit sur le papier, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de pesticides qui ont été interdits, même en Tanzanie, que vous trouverez sur les marchés. Donc c'est comme s'il n'y avait aucun contrôle.
Mais alors, comment l'expliquer ? C'est un manque de volonté politique, c'est un manque de moyens, c'est le lobby de l'agrochimie qui est très puissant. Comment expliquer ce manque de contrôle ?
Je dirais que la première cause, c'est les lobbies, car ils sont très puissants. Bien sûr, on n'a pas d'argent pour faire de la recherche, mais on a l'appui de certaines institutions, comme l'ambassade de France, par exemple, qui nous aident à faire des études. Mais même lorsque l'on fait des études, que l'on avertit le gouvernement, on ne peut rien faire, car les lobbies de l'agrochimie sont trop puissants. Pourquoi je vous dis cela ? Eh bien, il y a quelques années, on a eu des fonds pour sensibiliser les agriculteurs sur les dangers des pesticides dans les villages près d'Arusha. On a été là-bas, on a sensibilisé les agriculteurs, et à la fin, plus aucun agriculteur ne souhaitait continuer à utiliser des pesticides. Mais l'industrie chimique a eu connaissance de cette information. Donc, ils sont allés voir le ministère de l'Agriculture, et ils ont organisé une session de formation à l'utilisation des pesticides pour les mêmes agriculteurs que l'on avait sensibilisés. Ils leur ont donné des conseils, comme quoi les pesticides n'étaient absolument pas dangereux pour la santé et que tout ce qu'ils avaient appris sur les effets nocifs des pesticides n'était pas la réalité.
Mariam Sow, est-ce que la situation est la même au Sénégal ?
Bon, au Sénégal, effectivement, la situation, je peux dire qu'elle est un peu même, mais elle n'est pas même. Dès l'instant, nous, au niveau du Sénégal, des ONG comme Enda Tiers Monde et d'autres ONG aussi ont pris conscience et les populations étaient là, elles n'avaient pas besoin de laboratoire pour comprendre les risques et les dangers liés à l'utilisation des produits agrochimiques. Parce que c'était là visible. Des femmes qui, en réutilisant les emballages, avaient des problèmes, des enfants qui buvaient des résidus de pesticides, des cultures qui développaient une accoutumance par rapport à un certain nombre de choses, la terre qui était morte avec l'utilisation abusive des engrais chimiques, la coupe des arbres, la désertification. Donc une prise de conscience était là, avec une étude où les populations se sont exprimées en 1980, les pesticides au Sénégal, une menace. Donc il y a une forte sensibilisation avec les acteurs, des expérimentations sur les alternatives. Et aujourd'hui, on est arrivé à des situations où les communautés paysannes se sont bien organisées et structurées et ont compris, se posent des questions, interrogent les scientifiques. On a aussi vu qu'au niveau de l'État, même s'il y a toujours la pression, effectivement, de ces multinationales-là, ils réagissent. Par exemple, quand le président dit que je fais de l'agroécologie mon quatrième axe, donc ça a été une opportunité pour nous qu'il fallait saisir.
Le quatrième axe du plan Sénégal émergent.
Exactement. Donc tout ça, ça sert d'opportunité pour nous pour réagir. Mais je suis persuadée de ce qu'elle vient de dire, effectivement, que les multinationales n'arrêteront pas de défendre leur intérêt.
Aimé Félix Dzama, quelle est la situation au Togo ?
Je pense que le paradigme au niveau des politiques agricoles s'inscrit pleinement encore dans celle de la révolution verte. Donc
c'est la même situation qu'en Tanzanie ?
Qu'en Tanzanie, mais par rapport au lobbying, je n'en ai pas connaissance moi directement, mais je me dis c'est possible. Et je pense, comme Madame Sow, il faut une dynamique qui vienne de la base. Je pense que si les acteurs eux-mêmes sur le terrain arrivent à adopter des pratiques plus vertueuses, qu'on arrive à trouver, à co-construire ensemble des solutions qui répondent aux défis auxquels ces acteurs font face, ça change la donne. On va dire, cette pression-là, elle subsistera toujours, mais c'est à nous qui œuvrons au quotidien sur le terrain d'apporter des réponses et de contrecarrer, entre parenthèses, cette énergie, cette force qui vient à notre.
Pierre Blaisango, est-ce que vous ressentez ces pressions des lobbies de l'agrochimie au niveau des agriculteurs que vous formez ? Parce que la chercheuse en Tanzanie disait clairement que ça se passait aussi au niveau de la formation.
Mais je voudrais d'abord dire que quand on suit ce qu'elle a dit, c'est au niveau des effets qu'elle est entrée en parlant de cancer. Ça, c'est au niveau des effets. Et c'est la partie la plus complexe, parce que quand ça arrive aux effets, l'action est posée des années et des années avant. Alors, je voudrais dire que c'est ça qui rend un peu compliqué le combat avec les multinationales, dans la mesure où leurs stratégies, premièrement, ne sont pas dévoilées. Une multinationale ne vous dira pas qu'elle est en train de faire la campagne pour telle ou telle chose, de manière visible à chaque fois. Et deuxièmement, il faut dire que nos référentiels de production ont des fiches techniques, des livres entiers qui ont été écrits depuis des décennies et qui donnent ces recettes. Alors, le vrai problème aujourd'hui est s'arrêter un temps pour se poser la question « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» Questionner ce que je fais aujourd'hui pour construire des solutions alternatives de demain. Or, cette partie-là est ce qu'il faut d'abord commencer à faire. Parce que, en termes, nous sommes face à une situation qui, des décennies durant nos politiques de développement, ont porté l'agriculture intensive. Elle est référencée, archivée, mais avec des vidéos. Toutes les formes de sensibilisation ont été utilisées pour l'encourager. Au moment où on dit halt, arrêtons-nous, questionnons ce qu'on fait et mettons-nous dans une nouvelle perspective qui questionne tout ce qui. Mais je dis, le travail est immense et il n'y a pas que les multinationales, mais il y a toute notre politique de développement. Toutes nos politiques de développement ont défini les bases d'une agriculture intensive. Alors, pour la déconstruire, on peut la déconstruire facilement au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, mais les acteurs à la base, ça prend du temps de demander à quelqu'un qui était dans une logique économique, il fait ça, parce que l'agriculture, c'est d'abord comme une activité, parfois on cherche la rentabilité, donc il est dans une logique économique, lui dire aujourd'hui que, attention, il n'y a pas que la quantité, il y a la qualité. Il y a même la vie derrière la qualité. Je crois que ce n'est pas aussi évident que ça apparaît.
Sandra Rullière, l'Agence française de développement a cette volonté de défendre l'agroécologie. Qu'est-ce qui a motivé ce changement ?
Alors, comme on l'indiquait précédemment, en première partie de l'émission, ce qui a motivé l'appui et le soutien vraiment affirmé aux transitions agroécologiques, et notamment en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment la diversité des enjeux auxquels sont confrontés aujourd'hui ces territoires. Climatique, biodiversité, pauvreté, insécurité alimentaire. Aujourd'hui, ce qu'on voit bien dans les échanges que nous avons, le reportage que vous avez passé, est qu'il y a besoin de pouvoir encore documenter, de pouvoir argumenter, de pouvoir construire un plaidoyer sur l'agroécologie, les effets de l'agroécologie. Et pour cela, il est vraiment essentiel de mobiliser à la fois la recherche et la société civile. L'AFD y contribue au travers des financements qu'elle apporte sur ces territoires ruraux. Il est essentiel de développer des partenariats entre la recherche et les réseaux d'agriculteurs familiaux pour encourager toutes ces innovations, valoriser ces savoir-faire locaux et des pratiques qui soient adaptées au contexte local. L'autre point qui est bien mis en avant est l'importance que ces recherches, cette documentation, ces arguments remontent au niveau des politiques publiques et permettent d'alimenter les politiques publiques et un cadre réglementaire qui soit adapté. Et enfin, il y a la question de l'investissement dans la formation. Il faut pouvoir proposer des offres de formation, des offres de conseils agricoles qui intègrent ces pratiques agroécologiques, en réformant les cursus, en développant des MOOC sur l'agroécologie pour pouvoir travailler à grande échelle et passer à l'échelle ces formations. Et là encore, l'AFD est pleinement mobilisée sur ces aspects-là.
Alors Nadine Andrieux, vous avez du pain sur la planche, hein, si je résume tout ce qu'on vient de dire, parce que justement, la recherche au CIRAD, c'est ce que vous faites hein, pour promouvoir ce modèle de l'agroécologie.
En écoutant cet exemple en Tanzanie, je me disais que en termes de recherche, donc, on a parlé de la nécessité de documenter ces pratiques agroécologiques, montrer qu'elles fonctionnent, la diversité de leurs performances, à la fois agronomique, environnemental, social. Mais il y a surtout aussi des travaux à mener sur les conditions favorables au changement d'échelle. Il y a des travaux qui peuvent être faits sur les politiques publiques, comprendre les politiques qui existent, les tensions qui existent entre des politiques sectorielles et aussi participer à la création de nouvelles politiques publiques plus favorables. Et ça, c'est un travail aussi à mener avec les décideurs. Donc il y a des travaux qui sont menés dans ce sens au CIRAD. Donc en résumé, il y a des travaux à faire sur ces pratiques, produire des bases de données, montrer comment elles fonctionnent dans une diversité de contextes, mais il y a aussi des travaux à mener sur ces politiques et sur toutes les conditions favorables de marché pour, on a parlé de passage à l'échelle de ces pratiques. Et il y a sûrement aussi des travaux de recherche sur la formation, comment renouveler la formation, pas seulement pour des cadres scientifiques, mais aussi pour des professionnels, pour des producteurs, donc renouveler les méthodes, renouveler le discours, être plus peut-être aussi proactif que ces lobbies, se donner les moyens, partager toutes ces connaissances éparses qui existent, les rendre plus facilement accessibles. Donc on a effectivement beaucoup de challenges à relever.
Mais le CIRAD est très mobilisé sur le sujet.
Oui, le CIRAD est très mobilisé. Donc j'ai cité des travaux qui existent sur les politiques publiques. On a une unité du CIRAD qui travaille sur ces questions. Et on a tout un tas d'unités au CIRAD qui travaillent aussi sur les pratiques agroécologiques sur le terrain, avec des approches renouvelées, des approches de recherche-action, où on travaille main dans la main avec les ONG, les producteurs. On a changé de posture. Pendant longtemps, on a eu une posture peut-être plus top-down, où c'était le scientifique qui savait. Et maintenant, on est un peu plus humble. On reconnaît que le producteur a énormément de connaissances. Les ONG sont en direct avec les producteurs. Donc, on essaye de se mettre ensemble et sur le terrain d'expérimenter des choses, de valoriser cette diversité de connaissances, de travailler avec les ONG comme facilitateurs entre des scientifiques, des producteurs sur le terrain. Donc, je suis plutôt optimiste.
Alors justement, dans ce contexte, comment développer l'agroécologie sur le continent africain à grande échelle? Nous en parlons dans C'est pas du vent, mais pour l'instant, c'est Calcutta sur RFI. Sorisso.
Stanotte, ovunque non ci sei, mi sembra il Colosseo. Dal cielo piovono cocktail, polisi in elicottero. Su Sesto San Giovanni, manco un'ora arriva il lunedì. E non ti bacio da due anni, cara amica mia. Promettimi che persa nei tuoi giri. Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre. E non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto, mentre fai due tirini. Ti prego, parliamo di te, che se parlo di me mi manca il respiro. Ho perso troppe ore di sonno, che se dopo mi sdraio dormo come un ghiro. E ho fatto le cose più brutte, che se mamma sapesse rimarrebbe male. E ho fatto le cose più brutte, guarda scusa mamma, è una scusa per cantare. Ti prego amore mio, promettimi che perse nei tuoi giri. Se qualcuno poi ti parla di me, parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre. E non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e poi ti strucchi.
Calcutta dans C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes à Montpellier, dans le sud de la France, à l'occasion des Montpellier Global Days Africa. 4 jours de débats autour du thème soigner, nourrir et protéger. Des débats qui ont eu lieu en amont du sommet Afrique-France qui se déroule aujourd'hui. Notre studio est installé dans le campus du CIRAD, le Centre international de recherche agronomique pour le développement, qui a animé 2 jours de discussion sur comment faire changer d'échelle l'agroécologie sur le continent. Et ça bouge notamment au Sénégal, Mariam Sow, avec la DITAES, la Dynamique pour la Transition écologique au Sénégal. C'est un mouvement social qui a émergé en 2019 et qui peut être très inspirant pour de nombreux pays. Alors expliquez-nous ce qu'est la DITAES.
Oui, merci Cécile. La DITAES, c'est tout un ensemble d'acteurs. Comme je l'ai dit, c'est depuis plusieurs années que le Sénégal, à travers les ONG, les acteurs, les paysans qui sont structurés et organisés ont pris conscience et ont commencé à travailler. Et aujourd'hui, comme elle l'a dit, le CIRAD, comme d'autres organisations, il y a eu ce réveil aussi, heureusement, de ces chercheurs qui ont accepté aussi de se remettre en cause, qui ont dit, mais tiens, nous savons, mais nous savons aussi que d'autres connaissent. Et qui savent aussi, on a dit que depuis 60 ans, on va régler le problème de la faim. Malgré tout, la faim est là, elle existe. Et qui ont accepté d'aller avec nous, avec les producteurs, sur le terrain, pour parler sincèrement avec ces acteurs de terrain qui ont mûri, qui ont pris conscience et qui se questionnent pour dire que nous allons aller ensemble à la recherche d'alternatives viables.
Alors ça s'est traduit par une caravane qui a fait le tour
Exactement,
du Sénégal.
Exactement, une caravane qui a fait le tour du Sénégal pour construire une réponse au président de la République sénégalaise et qui a dit qu'il fait de l'agroécologie son quatrième axe. Donc, c'est ce groupe de jeunes, des ONG, des jeunes paysans, des jeunes chercheurs qui ont sillonné les 6 zones agroécologiques, parlé avec les territoires, questionné les territoires, remonté les problèmes et proposé ensemble des pistes d'action autour de l'agroécologie et sur toute la chaîne. Il ne s'agit pas de développer une agroécologie de pauvres, non. C'est une agroécologie qui part de la production des agriculteurs, des éleveurs, de la vie de la terre, de la transformation, de la consommation et qui crée des richesses avec les jeunes et qui pense pour le futur dans la bonne gouvernance des ressources.
Pierre Blaisango, montrer des évidences, c'est aussi ce que vous devez faire dans vos formations pour convaincre.
Justement, je crois que pendant ces jours de ces Global Days, quelque chose est apparu. Partout où j'ai assisté à des travaux, quelque chose est apparu. Madame Sow venait de parler de cette transition. En fait, ça questionne ce qu'on fait aujourd'hui pour voir si on peut le faire autrement. Mais ça questionne aussi les pratiques qu'on fait aujourd'hui pour voir les situations nouvelles qui apparaissent pour raisonner les situations futures. Donc, en fait, parlant de la formation, alors, ça questionne les contenus qu'on avait, qu'il faut maintenant regarder avec un regard, avec des yeux interrogatifs pour dire, est-ce que ces contenus qui reflètent le présent préparent au futur? Et ça, c'est d'abord la partie contenu. Ça questionne les pédagogies. Alors, il y a forcément, les bases scientifiques seront les mêmes, quel que soit pour la discipline, la science ne change pas, les bases scientifiques seront les mêmes, mais les pratiques, il faut les questionner avec une réflexivité qui permet maintenant de les faire bouger. Et il faut, au niveau de la formation, une démarche pédagogique qui permet d'aider les futurs agriculteurs à raisonner les pratiques et non plus à aller lire dans un document une recette figée avec des applications. Maintenant, il faut être en situation de construire ses propres recettes. Mais maintenant, comme je l'ai dit, la construction n'est plus seulement individuelle, elle va aussi être collective parce que quand vous construisez votre recette à la dimension de votre parcelle, celle du voisin n'est peut-être pas dans la même référence. Il va falloir aussi tenir compte de tout cela.
Alors, Aimé-Félix Dzama, l'avenir, vous avez décidé de le prendre en main, version agroécologie. Alors, au Togo, ça se passe comment? Vous formez combien de personnes? Comment est-ce que vous organisez sur place?
Alors, pour les 2 années à venir, on s'est fixé un challenge, c'est de former et de travailler avec 250 femmes maraîchères, donc qui se retrouvent au niveau d'un cours d'eau, donc d'un bassin de production, où on va dire depuis 2000, les années 2000, on a vu une forte mobilisation d'intrants de synthèse venant des pays voisins qui sont fortement mobilisés pour accroître la production. Donc c'est une zone périurbaine qui fournit l'essentiel des légumes vers Lomé, la capitale. Et donc, notre travail a été d'accompagner ces femmes-là, de repérer des pratiques qui existaient et de consolider ces pratiques-là. Donc, je parlais tantôt de biofertilisants. Donc, une première action a été de proposer ce biofertilisant qui apporte, on va dire, dans une moindre mesure, en tout cas valablement, des réponses à des rendements élevés au niveau des légumes-feuilles.
Et donc, ça se passe bien, c'est que les femmes acceptent de changer ?
Enfin, il faut, c'est pas aussi aisé de changer parce que c'est beaucoup plus facile en termes d'épandage des intrants de synthèse, c'est beaucoup plus facile d'épandre de l'urée que de mobiliser un seau d'eau avec un biofertilisant liquide sur toute une parcelle. Donc, il y a des questions de temps de travail qui se posent et la question de la valorisation des légumes se pose également. On mobilise plus de temps de travail et donc comment on valorise ce temps de travail-là dans la commercialisation. D'où l'apparition dans nos réflexions d'un système participatif de garantie, donc un label pour distinguer cette production agroécologique des productions conventionnelles.
Oui, parce que Nadine Andrieux, il y a des vrais sujets autour de l'agroécologie. Ça se passe pas seulement au niveau du champ. Hein. On a compris que c'était plus intensif en main-d'œuvre. Bon, ça déjà, c'est un enjeu important, mais ça veut dire que ça peut coûter plus cher de produire en agroécologie. Donc, il faut des marchés derrière.
Tout à fait. Souvent, une des contraintes à la mise en œuvre de l'agroécologie, c'est le surcoût de travail. Donc du coup, on a évoqué la question de label pour valoriser, enfin pour payer à leur juste prix ces produits agroécologiques. Après, le travail peut être vu aussi comme une opportunité. On a des jeunes qui arrivent sur le marché du travail et donc l'agriculture peut permettre d'absorber ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, contrainte, mais potentiellement opportunité, parce que le secteur agricole peut fournir des débouchés pour tous ces jeunes. Alors, bien sûr, il faut rendre attractive cette agriculture pour ces jeunes, qui n'aient pas l'impression que travailler dans le secteur agricole soit une sorte de retour vers des pratiques anciennes. Donc, penser à une agroécologie dynamique, pourquoi pas qui utilise des technologies du numérique pour rendre attractive cette agriculture et cette agroécologie pour les jeunes. Donc en résumé, oui, il y a des contraintes, mais ça peut aussi être vu comme une opportunité pour ces jeunes.
Sandra Rullière, de quelle manière, du coup, vous accompagnez le développement de l'agroécologie à l'AFD ?
Je pense que le rôle d'une banque publique de développement comme l'AFD, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces transitions. Alors, ces transitions, elles sont, comme on l'a vu, à contextualiser en fonction des territoires, en fonction des institutions qui existent au sein de ces territoires, c'est-à-dire quelles organisations de producteurs, comment les usagers sur un territoire définissent des règles sur la gestion des ressources naturelles, quelles sont les contraintes des producteurs, des éleveurs sur ce territoire et comment répondre au mieux à ces contraintes. Donc, on le disait, on accompagne ces transitions via la recherche, via l'appui aux organisations de la société civile, via l'appui à l'État, pour définir des politiques publiques, des stratégies.
Et sur ces histoires de marché, justement ?
Alors, sur les questions de marché, il y a en effet plusieurs options qui sont envisageables, qui doivent être regardées en fonction de ces territoires. Il peut y avoir des exemples de contractualisation, par exemple, entre des entreprises privées en aval de la filière et des groupes de producteurs, avec des contrats qui doivent être, bien sûr, équilibrés pour fournir un prix rémunérateur aux producteurs et finalement payer ce service environnemental qui peut être rendu par les producteurs. Et il y a aussi sans doute des options à regarder du côté des consommateurs. Comment sensibiliser les consommateurs au service environnemental qui est rendu et donc accepté pour des consommateurs via des indications géographiques, des certifications, peut-être de rémunérer mieux ces producteurs qui font cet effort et qui sont engagés dans ces transitions.
Après, il faut faire tout un travail de sensibilisation du consommateur pour qu'il sache quel label il faut acheter ou pas. Enfin, tout ça, c'est, on a bien compris, c'est une dynamique qui est en marche. Mariam So, pour conclure, ça fait plusieurs décennies que vous vous battez pour défendre l'agroécologie. Cette semaine, vous avez dit « ça bouge enfin ».
Oui, j'ai dit que ça bouge enfin. Comme je l'ai dit, au Sénégal, ça bouge. Dans les trois grandes universités du Sénégal, il y a des masters en agroécologie qui s'organisent. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'éducation, il y a des aspirations de changement. Sur le terrain, il y a des écoles aujourd'hui qui déroulent des programmes sur l'éducation environnementale. Donc, en essayant d'avoir un ancrage au niveau de la mentalité, l'État dit qu'il veut bouger. L'AFD est là devant nous. Elle dit que nous allons bouger. Maintenant, ce qui reste, comme je le disais hier, c'est comment arriver à aller dans la réalité des choses. Comment arriver à nous asseoir de façon égalitaire entre nous et à discuter, surtout pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, reprendre la même chose, parce qu'on sait que nos politiques nationales, quelle que soit leur volonté d'engagement, elles dépendent des politiques internationales. Donc, comment quand même, après toute cette prise de conscience de ces consommateurs qui sont membres aussi de la DITAES, tout ce que je viens de citer, comment nous allons, dans la conception de ces projets, nous asseoir ensemble, les concevoir ensemble, dégager des stratégies de mise en œuvre avec des systèmes d'évaluation et de contrôle. Qu'on ne soit pas là pour attendre qu'on soit associé. Mais on veut que si une agence comme l'AFD décide d'opérer des changements, et les changements, c'est au niveau du dialogue, c'est au niveau de la recherche, et les deux combinés, c'est au niveau des systèmes de financement, c'est au niveau des modèles de commercialisation. Parce que si on commercialise et qu'on continue à infester le marché avec des produits qui sont subventionnés, ça ne change rien. Donc, comment nous allons être interpellés de façon égalitaire pour parler ensemble et aider nos États à avancer? Sinon aussi, il y aura toujours des projets avec de grosses sommes qui sont annoncés et la pauvreté va continuer encore à exister. Et après encore, des questions plus dangereuses vont se poser. Est-ce que cette pauvreté n'est-elle pas organisée? Donc, c'est ça qu'il faut arriver à éviter. On vous invite parce qu'aujourd'hui, les choses changent, les mentalités changent. Nous invitons à nos amis, à nos collaborateurs d'accepter qu'il faut changer de façon égalitaire avec une écoute mutuelle. Voilà.
L'avertissement est lancé. Merci beaucoup, Mariam So. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Sophie Delamichia du CIRAD pour son aide dans la préparation, à François Porcheron pour l'installation de ce studio et la réalisation. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Vous êtes nombreux à nous écrire. Continuez, nous adorons vous lire. Par mail, c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.